tente rayée beige, ventilateur à pales noires, colonnes blanches et balustres au-dessus du lac. Le Boathaus est le seul restaurant de luxe que je connaisse, mais je me sens chez moi tellement j'y ai été heureux, un dimanche par mois, la main d'Emma dans la mienne, nos genoux imbriqués sous la double nappe jaune. L'idée ne m'a même pas effleuré, en donnant l'adresse au docteur Entridge, qu'elle pourrait être là avec le grand blond qui m'a remplacé. Je sais qu'elle n'est pas comme moi. Quand elle tourne la page, elle ne revient pas en arrière. Elle change d'habitude, de goût et de décor. Enfin, j'imagine. Je conclus, d'après le peu que j'ai vu le jour où j'ai sonné chez eux. Le maître d'hôtel s'avance vers moi, l'air dissuasif, me demande si j'ai réservé. Il ne me reconnaît pas, c'est normal, on n'avait Dieu que pour elle. Un regard à mon blouson d'Arnel Poul, et déjà il a le sourire diplomatique et le geste amorcé vers la terrasse voisine, le snack des familles où les enfants s'écrasent contre les grilles pour jeter du pain aux canards. J'hésite à lui donner mon nom qui doit être secret défense, lui aussi. Je ne sens pas trop non plus de lui demander la table de la Maison Blanche. Monsieur est avec nous. Je me retourne sur le père Donoway, qui est arrivé dans mon dos. Le maître d'hôtel s'incline, nous promet que la neuf sera prête dans un instant et se hâte d'aller refouler un couple de jeunes en short. Le prêtre me dévisage avec une affection de longue date, pétrit mon bras en m'assurant que ça va aller. Je ne dis rien. Je n'aime pas l'intimité qui suinte de ce vieux noir aux yeux glauques. Ne sentir aucun écho dans ma mémoire face à cet inconnu qui prétend m'avoir élevé me rend méfiant, allergique à l'air embué qu'il affiche quand il me regarde comme si j'étais son œuvre. Il me conduit vers les fauteuils en cuir brun du coin cheminée où brûle en hiver un feu de fausses bûches au gaz. Deux hommes se lèvent. Un grisâtre en touille d'or saison qui me rappelle un hérisson de dessin animé, et un cadra lisse comme un savon, le menton fuyant, la main molle et le regard en dessous. Monseigneur Givens, évêque in partibus. Pour être poli, je lui demande où c'est. Nulle part, répond à sa place le hérisson en me broyant les doigts avec enthousiasme. Monseigneur est un titulaire sans diocèse, docteur en théologie et conseiller du président pour les questions religieuses. Moi, je m'occupe de la partie scientifique. Irwin Glasner, c'est un grand, grand plaisir. Avec une lenteur timide, il me touche le bras, l'épaule, comme pour évaluer ma musculature, m'attire brusquement contre lui, m'écarte avec des tremblements dans le sourire. Vu ses yeux injectés et l'état de son pif, il ne doit pas sucer de la glace. Toutes ces années, Jimmy, vous n'imaginez pas. C'est une chose de décrypter un génome, de rêver sur des données, mais lorsqu'on se retrouve tout à coup devant la réalité, en chair et en os... Excusez-moi. Gêné par ces débordements dont je ne peux mesurer la sincérité, je lui réponds qu'il n'y a pas de mal. Il renifle, hoche la tête, croise le regard froid de l'évêque, desserre les doigts. Je récupère ma main, la plonge dans ma poche pour toucher la feuille morte que j'ai prise à l'érable. Un moyen de m'isoler de ces gens, de garder le lien avec l'arbre qui est peut-être en train de se régénérer à leur insu, là-bas. « Voilà, Jimmy !» reprend le scientifique en noyant la sensiblerie dans la jovialité. « Soyez le bienvenu parmi nous. Vous connaissez déjà le juge Claiborne et le docteur Entridge, mais ce n'est qu'un petit aperçu de l'équipe de tout premier plan mobilisée autour de vous. »«
Pourquoi faire ?» Ma question le prend de court. « Allons déjeuner, » décide l'évêque.
Le maître d'hôtel nous conduit jusqu'au bord du lac, où un gros rouquin en chemise bariolée tartine du beurre en étudiant le menu. Le restaurant est archi-comble. Seules les 6 tables autour de nous sont vides, sans doute réservées par les services secrets.
« Je ne vous avais pas vu entrer, Buddy. Vous êtes arrivé en barque ?» lance gaiement le conseiller Glasner, qu'on a dû charger de mettre l'ambiance.
L'autre abaisse le menu, se retourne, et j'ai un choc.
« Buddy Copperman ?»
Il me dévisage avec stupéfaction.
« Vous me connaissez ?»«
The Crayfish !»
« Eh ben, fait-il en se renfrognant, vous avez de la mémoire. »«
Je me suis repassé le making-of l'autre jour. Vous n'avez pas changé du tout, c'est dingue !»«
Asseyez-vous. »
Je m'installe à côté de lui, le cœur battant. C'est la première fois que je côtoie le talent d'aussi près. Je croise le regard des 3 autres. Visiblement, ils ne savent pas de quoi on parle. Je leur raconte. «
C'est un type dans mon genre qui s'appelle Bob. »
Il a tout perdu, il s'est fait larguer par sa femme et sa famille. Il déjeune au restaurant avec son seul copain, un médecin, qui lui annonce qu'il a un cancer généralisé. En plus, c'est l'amant de sa femme. À côté d'eux, il y a un vivier où une langouste est en train de se faire massacrer par un homard. Alors, quand le garçon vient pour la commande, Bob demande la langouste et il part avec. Il l'installe chez lui, dans sa baignoire, il la soigne, et puis elle fait des petits. Et finalement, elle prend toute la place dans sa vie, la baignoire ne suffit plus. Alors il colmate toutes les ouvertures, il inonde sa maison, il la remplit d'algues et de mollusques, et c'est lui qui se met à vivre peu à peu dans le milieu des langoustes. À la fin, comme il souffre trop de son cancer, il s'ouvre les veines dans l'eau pour qu'elle le mange, par dignité humaine. Comment ça vous est venu, l'idée ?
Je n'avais droit qu'à deux décors. Un très mauvais souvenir.
Au contraire, pourquoi ? C'est un désespoir tellement optimiste. Et en même temps, c'est la seule revanche possible. Je décide que je vais créer des liens avec un crustacé parce que les humains ne veulent plus de moi. Non ? Je prends à témoin le scientifique et les religieux qui ont l'air totalement largués. 3 minutes plus tôt, j'étais leur chose. Ils se croyaient les maîtres du jeu et voilà qu'une discussion de cinéphiles leur fait perdre tout contrôle. En tout cas, moi, c'est mon film culte. La première fois que je l'ai vu, j'avais 15 ans et je me le repasse dès que j'ai un coup de blues.
Il a fait un bide noir, oublions. Là, je travaille pour la Maison Blanche, Jimmy. C'est moi qui supervise le projet autour de vous.
Je digère la nouvelle, partagée entre l'incrédulité, l'emballement et la prudence. Je connais sa filmo par cœur. Ce type est un génie absolu, un bloc de souffrance qui s'est toujours caché sous la provocation trash. Quel dommage qu'il n'ait jamais trouvé de réalisateur à la hauteur de son inspiration et que la politique lui ait mis le grappin dessus. Je suis peut-être la chance de sa vie. S'il est chargé d'écrire mon histoire, ça peut donner quelque chose de formidable, à condition qu'il ait les coudées franches.
Aujourd'hui, la suggestion est une lotte aux morilles. On se tourne vers le maître d'hôtel qui enchaîne légèrement des glacés au bouillon avec une pointe de madère.
5 lotes, décide mon scénariste pour gagner du temps. Vous prenez du vin ?
Je ne sais pas si j'ai le droit, dis-je pour montrer ma bonne volonté en consultant les deux religieux. Le père Donoway ne semble pas voir de contre-indication. Le monseigneur reste sur la défensive.
Buddy appelle le sommelier d'un claquement de doigts.
Un blanc léger ? Me propose Irwin Glasner. Ou plutôt un Nuit Saint-Georges.
Le prêtre hausse les sourcils et l'évêque me toise comme si j'avais sorti un blasphème.
Un Bourgogne rouge avec du poisson, souligne-t-il sur un ton d'indulgence narquoise.
C'est un excellent choix, confirme le sommelier. Avec les morilles et la pointe de madère, le blanc ne tient pas. Un côte de nuit est idéal. Tous mes compliments, monsieur.
Il s'en va. Les 4 hommes me regardent avec attention, comme si je venais d'avoir une vision, de formuler une prophétie. En fait, c'est le vin que j'ai bu avec Emma la dernière fois.
Depuis les événements de cette nuit, reprend le conseiller Glasner, vous n'avez pas tenté d'autres actions sur des personnes ?
Je fais non de la tête. Le soulagement que je vois dans leurs yeux me donne un malaise. Effet secondaire ou pas, je ne me sens plus de mentir, même par omission. Je précise, sur des personnes, non. Mais tout à l'heure, en venant, j'ai essayé de guérir un arbre. Un érable condamné à mort avec la pancarte. Je ne suis pas sûr que ça ait marché.
Il se regarde en biais, sans autre réaction qu'un sourire poli sur le visage chiffonné du scientifique.